Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette session consacrée à ESP.NET MVC et Web API. Voilà, on va commencer même si les gens ne sont pas encore tout à fait installés parce qu'on est un peu pressé par le chrono.
Donc on va commencer par faire les présentations. Donc je m'appelle Julien Coriolan, j'ai le plaisir d'animer cette session cette année avec Simon Ferkel. On travaille tous les deux chez Infinite Square, qui est une société de conseil et d'expertise pure player Microsoft. Si vous avez envie de nous rencontrer, n'hésitez pas à venir sur le stand 19. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un agenda qui est assez chargé parce qu'on a pas mal de choses à vous montrer. On va faire quelques rappels évidemment juste pour resituer le contexte à ASP.NET MVC Web API. On parlera des nouveautés d'ASP.NET MVC 5 et Web API 2. Et on vous parlera de quelque chose qui est très important. On verra qu'au final, ce n'est pas forcément que spécifique à MVC et Web API, mais c'est important de le connaître. C'est Owin qui représente un peu le futur du développement web sur la plateforme Microsoft. Et évidemment, on terminera par une session de questions-réponses.
Alors, petit sondage pour commencer. Combien d'entre vous ont déjà commencé à développer des applications MVC ou Web API ?
Donc, il y a une grosse partie de la salle pour le webcast. Ouais.
Bon, pour le webcast, il y a à peu près 90% de mains levées dans la salle, donc c'est pas mal, on est déjà en terrain conquis.
Donc du coup, des rappels qui vont être rapides. ASP.NET MVC, modèle View Controller, il me permet de développer des applications web sur la plateforme Microsoft. Le contrôleur qui est là en tant que pilote, il va travailler avec mes couches de service pour charger des données dans un modèle et demander le rendu d'une vue. Quand on est en ASP.NET MVC, on travaille en général avec du HTML. ASP.NET Web API, qui est arrivé en même temps qu'ASP.NET MVC 4, va me permettre de concevoir des API web robustes, orientées REST en général, et va avoir un fonctionnement qui est globalement similaire à ce qu'on connaît avec MVC, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des contrôleurs, on va travailler avec des actions. La seule grosse différence qu'on va avoir, c'est qu'on ne va plus retourner du HTML, mais on va retourner un autre contenu, du JSON, du XML, avec une grande force de Web API, c'est que c'est le client qui va choisir quel est le type de contenu qu'ils vont recevoir. ASP.NET Web API permet d'en gérer deux par défaut, le JSON et le XML, et on peut bien entendu étendre un petit peu ces mécanismes pour fournir un peu n'importe quel autre type de données. Donc au final, ce que je disais, c'est que cette session, on va évidemment vous parler en priorité de MVC et Web API, mais tout ce qu'on va dire, ça s'applique en fait à ASP.NET en général. Et donc du coup, Simon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette stratégie de Microsoft par rapport à ASP.NET ?
Alors, bien sûr, si vous vous souvenez un petit peu de ce qui se passait quand on faisait un nouveau projet web sous VS 2012, on se retrouvait avec un catalogue de templates assez fourni, avec deux ou trois templates MVC, deux ou trois templates web pages, un ou deux web forms, des choses avec du web API, des choses avec du signalaire, etc. Et en fait, il se trouve que c'était du coup assez compliqué de faire des projets où on a à la fois du MVC, du Web API, et puis peut-être une partie en web page, et peut-être avoir un lien signalaire aussi actif sur la page, etc. Et c'était assez compliqué finalement d'arriver à un niveau où on avait toutes ces briques ensemble. Donc la stratégie One ASP.NET de Microsoft, l'idée est toute simple, c'est de dire, voilà, en fait, on va avoir un seul template web, un seul template de projet web. Et ça va être un template un peu à la carte, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, je suis plutôt orienté MVC, mais je veux pouvoir activer du Web API, je veux pouvoir activer du Webform, je veux pouvoir activer telle ou telle brique. Donc comment ça se fonctionne ? On va aller dans Visual Studio. Alors, est-ce que ce micro-là marche ? Oui, tout à fait. Alors, je suis dans un Visual Studio tout neuf, je vais me faire un nouveau projet web. Et donc je me retrouve sur cette interface, je vais dire que je travaille principalement en MVC, mais je vais vouloir activer du Web API et puis du WebForms. De la même manière, je vais pouvoir aussi choisir la manière dont je vais vouloir authentifier mes utilisateurs. Par défaut, on va avoir des comptes individuels stockés dans une base de données SQL, avec potentiellement des comptes Facebook, Twitter, Google qui vont se rattacher. Mais je peux aussi aller ici et créer une application qui va se baser sur des comptes organisationnels. Donc, les comptes organisationnels, c'est sur un Active Directory, soit on-premise, soit dans le cloud, avec Windows Azure Active Directory, ou avec de la DFS et des choses comme ça. Donc, si par ici, là, je viens cocher tous les trucs qui vont bien pour faire du Windows Azure Active Directory, je vais me retrouver avec le template d'application qui va carrément venir déclarer l'application au sein de Windows Azure Active Directory pour moi, et qui va la configurer pour que ça marche directement. Donc, je vais repasser en mode individual user accounts pour la démo. Mais par contre, je vais venir vous montrer juste après l'expérience avec Windows Azure Active Directory. Donc là, mon projet se crée et on va effectivement voir qu'on va avoir la possibilité, si on regarde dans l'app start, d'avoir du MVC. On retrouve les filters config, route config, etc. Puis on a aussi une partie web API config parce que j'ai demandé du web API. Et comme j'ai activé aussi la partie webform, les outils vont me permettre de créer du webform aussi à l'intérieur du même site. Donc ça, ça a l'air de rien, mais c'est une stratégie qui est vraiment ancrée chez Microsoft, et on va voir qu'il en découle pas mal d'autres petites choses. La deuxième chose, si j'avais créé l'application en mode WAD, donc là, en fait, ça va me permettre de vous présenter l'application sur laquelle on va faire toutes nos démos, qui est une application de gestion d'e-book.
Comme vous n'avez pas tous un traducteur de Simon, WAD, c'est Windows Azure Active Directory.
Effectivement. Ce qui se passe, donc là, j'ai lancé le back-office de notre site de gestion d'e-book. Et donc, comme j'ai été configuré avec WAD, on va se retrouver avec l'interface de connexion Windows Azure Active Directory. Donc, j'allais venir me loguer avec le compte de Julien. Non, tu n'es pas dedans, là. On a créé pour la démo un tenant WAD, donc mon WAD dans ton cloud. Voilà.
Et du premier coup,
on se retrouve logué avec un compte d'organisation. Ce tenant WAD, on aurait pu bien sûr le synchroniser avec un Active Directory en local, mettre en place du single sign-on sur un intranet ou des choses comme ça. Voilà, donc ce qu'a fait en fait ce template, c'est qu'il allait déclarer l'appli dans le tenant WAD dans Azure. Donc je vais te laisser la parole pour la partie identity.
Ok, pardon. ASP.NET Identity, vous connaissez peut-être si vous avez commencé à regarder un petit peu MVC5 et globalement ASP.NET dans Visual Studio 2013. Quand on voulait authentifier des utilisateurs avant Visual Studio 2013, quand on était dans une appli ASP.NET, on avait tendance à utiliser des mécanismes de membership provider. Il en existait plusieurs, SQL membership provider, Active Directory membership provider, Custom membership provider, puisqu'on pouvait en faire une implémentation complètement personnalisée. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est amené à changer, puisque Microsoft a refondu avec Visual Studio 2013 et toutes les technos web qui arrivent, ce système d'identité qui est basé maintenant sur ASP.NET Identity Core. On va baser désormais nos identités sur des claims, donc les claims identity, si vous ne connaissez pas ce que c'est un type de e-identity dans le framework .NET, qui est en fait une simple description d'une identité sous la forme de claims, qui est une collection de clés valeurs. Si moi je me décris sous la forme de claims, mon prénom c'est Julien, mon nom de famille, c'est Coriolan. Ma société, c'est Infinity Square, etc., etc.
Numéro de téléphone, c'est non. Le 06.
Et donc, ces identités, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir avoir des systèmes qui sont capables de discuter avec des fournisseurs externes, comme Facebook, comme Microsoft, comme Twitter, comme un ADFS, comme un Azure Active Directory, et qui va être capable d'agréger n'importe quelle information sous la forme de cette identité qui ensuite va fonctionner dans l'application. Donc pour ça, pour justement avoir ce mécanisme d'agrégation et de se baser sur des claims identity, on va utiliser ce qu'on appelle des middleware d'authentification. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive avec Owen, on vous en parlera en fin de session, mais il faut garder en tête que c'est basé là-dessus. Concrètement, ASP.NET Identity, il ne va pas me demander de réécrire toutes les couches d'authentification de mon application. Je vais toujours avoir de l'authentification par cookie, je vais toujours avoir mon user.isinrole dans mon application, je vais toujours pouvoir utiliser mes authorize attributes dans mes applications MVC ou Web API. Par contre, ce que va me déléguer à ASP.NET, c'est la gestion du stockage, qui pouvait être parfois un petit peu fastidieuse avant, où là, je vais vraiment avoir un certain nombre d'interfaces à implémenter pour dire ce que gère ou ce que je gère pas mon repository utilisateur. Donc là, dans la démo, on vous a fait un exemple de schéma qu'on a implémenté nous-mêmes. La chose notable qu'on peut voir sur ce schéma, c'est que d'une part, au niveau d'un utilisateur, on va gérer des claims, donc des informations pour décrire son profil. On va gérer évidemment des rôles, ça on le faisait avant. Mais en plus de ce qu'on faisait avant, on va gérer également des logins pour pouvoir associer plusieurs fournisseurs d'identité à un même utilisateur. Un fournisseur d'identité local, Facebook, Microsoft, etc., etc. Et évidemment, c'est totalement personnalisable. Donc je vais vous montrer ce que ça donne concrètement dans le code. Alors, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base de données. Donc j'ai un projet de database ici, je ne vous le détaille pas, c'est le schéma qu'on avait sur le slide avant. Et ensuite, je suis venu décrire en C# simplement la définition de mes utilisateurs, de mes rôles, ce que c'est qu'un claims, voilà, c'est une collection avec un type, c'est un type et une valeur, ce que c'est qu'un login, etc., etc. Ensuite, je suis venu créer mes repositories, comme d'habitude. Donc là, j'ai un contexte Entity Framework, c'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est plutôt cette classe-là qui va nous intéresser. On va se faire un peu de place. Qui est en fait la partie cœur de l'implémentation d'ASP.NET Identity. Donc là, j'ai juste référencé un package NuGet, microsoft.aspnet.identitycore, et j'ai un certain nombre d'interfaces à ma disposition pour dire bah, ce repository, il va permettre de gérer des logins pour un utilisateur, il va permettre de gérer des claims, des rôles, etc., etc. Et à chaque interface, bah, je vais retrouver une implémentation complètement customisable. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter un rôle à un utilisateur, bah, quand on est avec un contexte anti-framework que je maîtrise moi, on fait comme ça.
Donc là, si je comprends bien, comme tu as des interfaces, si je me retrouve dans un scénario cloud où je ne veux pas stocker mes utilisateurs dans un SQL, mais plutôt dans des tables Azure, je pourrais très bien l'implémenter sous cette formule-là.
C'est exactement ça. Je prends ce repository, je change l'intérieur de mes méthodes pour travailler avec le stockage Azure et ça marche.
Parfait.
Et donc derrière, au niveau de mon contrôleur dans l'application web, je vais retrouver ici l'utilisation d'un objet qui m'est également proposé par ASP.NET Identity Core, qui est le User Manager, auquel je vais dire quel est le type de mon utilisateur, ça c'est moi qui l'ai défini, et je vais lui passer mes repositories qui implémentent les différentes interfaces. Et derrière, il va travailler avec ça pour faire les créations, les ajouts de login, etc., etc. Donc si on regarde ce que ça donne sur ce site-là, donc là, j'ai une page de connexion. Je peux me connecter ou créer un compte local comme on le faisait avant. Donc, je vais me connecter par exemple avec Simon. À ma base de données. Et si je vais voir à ce niveau-là, j'ai également la possibilité de venir associer un certain nombre de services externes. Et donc ça, c'est built-in dans ASP.NET MVC 5. C'est-à-dire que j'ai juste quelques méthodes à venir renseigner dans la configuration de mon application. On va stopper pour se refaire de la place. Webhot, ici. Où en gros, je vais venir dire à mon application d'utiliser l'authentification par cookie pour les comptes locaux. Et puis derrière, je vais lui dire de venir utiliser une application Microsoft pour nous authentifier, une application Facebook, Google, etc. Et c'est donc là qu'est la magie d'Owin, qu'on vous expliquera un peu plus tard. Alors, on continue avec là une nouveauté qui est vraiment spécifique à MVC 5 et Web API 2, qui est l'attribute routing. Actuellement, quand vous développez des applications en ASP.NET ou Web API, vous avez dans votre global.asax ou dans un Web API config ou route config, la déclaration d'une route par défaut quand vous créez votre projet. En général, on va avoir tendance à vouloir modifier cette route par défaut ou ne pas le faire pour pouvoir créer des routes personnalisées dans l'application. Ce que va nous proposer le modèle de programmation par attribut, qu'on aime beaucoup en MVC et en Web API, hein, puisque c'est déclaratif, c'est simple, quand on débug, on a les informations directement sous les yeux, c'est de venir enrichir un petit peu nos contrôleurs et nos actions pour dire le préfixe de cette route, c'est accueil, l'action par défaut, ça va être index, etc., etc. Et donc, on va pouvoir travailler comme ça très simplement. Donc, je vais vous montrer comment ça se met en place dans une application MVC. Donc si je viens déjà regarder mon route config, j'ai plus aucune notion de route par défaut, j'ai juste un appel de méthode qui est mapmvc-attribute-route, qui va faire en sorte de scanner mes assemblées au démarrage de l'application pour mettre en cache toutes les routes qui auront été trouvées sur mes contrôleurs. Et derrière, si je vais regarder mes contrôleurs aussi bien MVC que Web API, je retrouve ici une définition des routes, le préfixe c'est catalogue, donc ma route je pourrais y accéder sur catalogue slash, et derrière si je vais sur ebook slash un ID, je pourrais récupérer le détail d'un e-book. Et l'avantage que j'ai ici, c'est que si j'ai, pour X raison, pas modifié la route par défaut, j'arrête de me trimballer un petit peu une variable ID qui veut rien dire de partout. J'ai vraiment un contrôle, c'est moi qui dis à ce moment-là quel est le nom de ma variable. Et puis évidemment, je peux continuer à faire tout ce que je faisais avant avec les routes, à savoir poser des contraintes, mettre des expressions régulières pour dire que ce paramètre, ça doit être une date ou un guide, que ça doit être un type entier. On peut tout faire avec la programmation par attribut.
Alors, j'ai enchaîné sur une autre fonctionnalité qui est spécifique à Web API, c'est le Web API Batching. Donc l'idée de faire du batching, c'est de faire en sorte de faire plusieurs appels à nos Web API en une seule requête HTTP. Donc typiquement, ça va pouvoir nous permettre de créer plusieurs entités en parallèle, faire plusieurs actions différentes en parallèle. Et du coup, comme c'est dans une seule requête HTTP, ça va diminuer le trafic réseau. Et puis souvent, ça va être plus adapté à des devices modernes. Par exemple, si vous faites tourner une application sur un téléphone en 3G, on essaie toujours de limiter le nombre de requêtes réseau, parce qu'il y a une certaine latence à chaque requête. Donc pour mettre ça en place, on va voir que c'est très très simple. Donc je vais repasser dans Visual Studio. Et donc la première étape, ça va être de venir activer le batching au niveau de Web API. Alors pour faire ça, dans mon Web API config ici, j'ai une partie spécifique au batching, et en fait on va simplement créer une route spécifique au batch qui va être pris en charge par un default HTTP batch handler. Donc ce default HTTP batch handler, quand il va être invoqué, en fait il va venir regarder ce qu'il y a dans la requête. Et puis il va décomposer ça, et puis il va invoquer chaque action qui doit répondre à chaque élément du batch. Donc comment ça se passe côté client pour appeler des méthodes en batch ? Eh bien ça se passe de manière assez simple. J'allais ici dans une petite application Windows 8 qu'on a fait pour l'occasion. Et ici j'ai en fait dans notre modèle, on a pour chaque e-book une liste de PDF qui correspondent aux différents chapitres. Et pour l'exemple de la démo, ce qu'on a voulu faire, c'est faire en sorte de pouvoir télécharger tous les PDF d'un coup, qui sont normalement servis par une API Web API. Donc ce qu'on a fait ici, c'est que pour chaque... On crée un HTTP request message de manière assez classique, en post sur notre URL de batch. On va indiquer que son contenu est de type... multipart mixte, et pour chaque requête qu'on va vouloir faire, eh bien on va rajouter à notre contenu un nouveau HTTP message qui correspond à un HTTP request message. Donc en fait, on encapsule plusieurs HTTP requests dans la même. Une fois qu'on a créé notre mixed content, on va pouvoir faire notre send async, on récupère notre réponse. Et de la même manière qu'on avait empaqueté plusieurs requêtes dans le même message, et bien dans la même réponse, on va faire un read as multipart async, et ça va nous récupérer la liste des différentes HTTP responses qui correspondent à chaque message qui est invoqué. Donc, du coup, je vais mettre un petit point d'arrêt ici, et je vais aller mettre un petit point d'arrêt dans ma web API qui correspond, puis on va voir qu'effectivement, en une seule requête, je vais attaquer plusieurs API web. Alors je suis où ? API, ebook controller, c'est celle-ci. Julien l'a évoqué tout à l'heure, le routing par attribut fonctionne aussi dans les web API. Ici vous voyez exactement la même syntaxe que pour MVC. Je vais passer en mode debug multiprojet. Hop. Voilà. Donc je lance la solution, je vais me connecter. On va voir un petit peu plus tard comment fonctionne la sécurité des web API. Je vais dans mes e-books, et donc si je viens cliquer sur un de mes e-books ici, donc j'ai créé mon multipart, ma multipart HTTP request. Ici, si on regarde mon content, je dois avoir plusieurs parts, je ne sais pas exactement combien. Je fais mon send et on va voir que côté web API, automatiquement, toutes les requêtes ont été routées vers les API correspondantes. Et là, je vais avoir donc une, deux, voilà, j'ai que deux parts dans celui-là. Et donc derrière, je vais pouvoir, côté client, récupérer les différentes parts, les traiter. Donc là, c'est du PDF, donc je vais le rendre du PDF, etc.
Donc du coup, en fait, sur cette partie Web API Batch, en admettant que j'ai déjà commencé à écrire des Web API depuis plusieurs années et que pour une application cliente en particulier, j'ai besoin de faire un batch pour justement économiser un peu de réseau, de bande passante, etc. J'ai juste cette route de batching à faire et derrière, c'est vraiment Web API en interne qui va gérer le fait de désempacter mes requêtes et les exécuter une à une. J'ai rien d'autre à faire.
Tout à fait, en fait. C'est vraiment cette route particulière qui est associée au batch handler qui va s'occuper simplement d'aller redispatcher les sous-requêtes aux Web API correspondantes.
Allez, on continue sur les nouveautés Web API. Alors là, s'il y a des gens dans la salle qui font du Web API, ils vont dire « OData, c'est pas une nouveauté, ça existait déjà ». Alors effectivement, ça existait déjà, mais ça a été pas mal amélioré dans Web API 2, avec notamment le support de nouveaux verbes. Je vais en parler juste après. Pour ceux qui ne connaissent pas, Web API OData, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonctionnalité qui va permettre, on le verra dans le code juste après, très simplement, d'exposer une web API, sous la forme du protocole OData. C'est-à-dire que non seulement on va pouvoir récupérer des données en sortie, ça Web API nous permet de le faire, mais on va pouvoir passer un certain nombre d'instructions directement dans l'URL pour filtrer les données qu'on veut ressortir. Si on prend l'exemple du $select qu'on va pouvoir mettre dans notre URL, il va me permettre de directement dire à ma Web API quels sont les champs parmi la liste des entités qui me sont retournées, que je veux récupérer. Si j'ai un client qui a une entité client qui a 25 ou 30 propriétés, je n'ai pas forcément envie de tout sortir à chaque fois, parce que forcément, j'ai plus de données qui transitent, donc plus de charges réseau. Web API OData me permettra de dire, non, pour cette vue-là, je vais faire un $select sur le nom et le prénom, et ça me suffit, et je vais recevoir que ça. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est encore un modèle de programmation par attribut. Donc déjà, on va regarder comment ça se passe côté code. C'est là. Donc là, j'ai un petit peu feinté toute l'authentification pour la démo, puisque je vais vous montrer ça dans Fiddler. Donc j'ai mis un hello anonymous. Et derrière, je me suis fait une méthode getEbooks, ici, que je vais pouvoir attaquer sur mon API slash ebooks, qui va me renvoyer une liste qui est propre à l'utilisateur. Alors je vais mettre à l'utilisateur Simon, et on va voir ce que ça donne. Donc je vais lancer ce site web. Là, hop, je vais prendre un filler. Je vais prendre un IE. Les aléas du direct. On a une machine qui a planté en fait 3 minutes avant le démarrage. Donc API slash ebooks. Et donc là, si je regarde ce qui m'a été renvoyé, c'est plein de choses. On a l'ID, on a le titre, et puis derrière, on a le thumbnail qui a priori s'est réalisé en base 64. Donc déjà là, on voit que cet exemple, il est complètement indigeste pour juste récupérer des éléments. Le fait d'avoir mis l'attribut queryable devant, derrière, va me permettre en gros de venir ici faire quelque chose comme ça, API slash ebooks, et je vais vouloir juste paramétrer ma requête, je vais lui dire $select égale ID, virgule, title, pour ne récupérer que ces deux entités-là. Donc je vais l'ouvrir, toujours dans Notepad, et là je vois que automatiquement, c'est beaucoup plus allégé derrière en termes de réponse et j'ai pu filtrer automatiquement ma requête. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si derrière je suis sur un eQueryable qui est directement branché à ma base de données, je vais pouvoir faire mes selects directement en base, je vais pouvoir faire de la pagination directement en base de données. en contrôlant comme ça, juste avec des paramètres, top, skip, etc., etc. Et je vais pouvoir aussi aller un peu plus loin, ça fait partie des nouveautés qu'on a sur le Web API 2, notamment l'opérateur expand, qui va me dire que quand j'ai un objet qui derrière a des sous-objets, je vais pouvoir également lui demander de me les récupérer en cascade pour avoir, bah, par exemple, mon customer avec sa collection d'achats directement, mais pouvoir choisir quand je le fais ou quand je ne fais pas. Donc une fonctionnalité plutôt sympa, qui en plus ne nécessite vraiment que de poser un attribut sur l'action pour laquelle vous voulez activer OData.
Voilà, donc voilà pour OData. Et donc maintenant on va partir dans un tout autre monde. Donc on a évoqué Owen tout à l'heure en intro, on l'a réévoqué sur la partie Authent. Et puis je vous ai parlé de la stratégie One ASP.NET. La stratégie One ASP.NET de Microsoft ne s'arrête pas au template de projet. Elle continue aussi avec l'approche qu'a Microsoft du développement web et l'introduction d'Owen. Alors Owen, c'est quoi ? C'est un acronyme pour Open Web Interface. Et en fait, c'est une collection d'interfaces et de classes qui permettent de mettre une petite couche d'abstraction au-dessus du serveur HTTP. Donc en gros, un serveur HTTP qui implémente Owen, donc par exemple on a une implémentation pour 2IS, une implémentation pour l'HTTP listener.net, et puis on a aussi une implémentation pour les tests unitaires qui sont fournis par Microsoft. Donc tout host compatible Owen est capable de faire fonctionner n'importe quel framework applicatif compatible lui aussi avec Owen. Donc dans les frameworks applicatifs qu'on a, ben on a ASP.NET, Web API, ASP.NET MVC, WebForm, Signaler, etc. Et donc du coup, on est plus lié finalement entre les applications qu'on va faire avec ASP.NET MVC et avec Web API vont plus être liées directement à 2IS. On va pouvoir potentiellement venir les embarquer. Chose aussi assez intéressante, c'est que du coup, Owen donc permet d'avoir des frameworks applicatifs qui vont se baser dessus, permet de mettre une petite couche d'abstraction pour l'adapter à n'importe quel serveur web. Mais en plus de ça, on a la possibilité de faire du code spécifique pour Owen. Et du coup, quand on va créer, c'est ce qu'on appelle des middleware. Et donc ces middleware Owen, quand on va les écrire, ils vont être capables de fonctionner quelle que soit la techno qu'on va avoir au-dessus. Donc quand je vais écrire un middleware Owen, il va fonctionner à la fois en WebForm, en Web API, en MVC, en Signaler, etc. Pour ceux qui ont déjà fait des action filters ou des delegating handlers en Web API, c'est des couches d'extensibilité qui sont spécifiques à ces technos-là. Avec Owen, en fait, on est plus spécifique à la techno. Donc un middleware Owen, en gros, qu'est-ce qu'on va faire dans un middleware Owen ? Généralement, on va faire des choses qui sont assez transverses et qui sont assez techniques. Donc typiquement, ça va être tout ce qui est log, tout ce qui va être authentification, potentiellement compression à la volée de contenu, URL rewriting et des choses comme ça. Et l'idée, c'est que ces middleware vont être compatibles du coup avec n'importe quel host Owen, donc 2IS, self-host, etc. Et puis, ils vont être compatibles avec n'importe quel framework applicatif. Et Microsoft en fournit forcément beaucoup, parce que l'idée aussi, c'est de montrer la valeur que ça peut avoir. Et notamment, en fait, tous les middleware d'authentification qu'on a pu voir, donc la gestion du cookie d'authentification, la gestion de l'authent Facebook, Google, Microsoft, etc. Tout ça, c'est fourni sous la forme de middleware Owen. On en a un autre aussi qui est assez intéressant, qui est le middleware OAuth2, qui permet de faire des serveurs d'authentification OAuth pour nos web API. Alors du coup, j'ai enchaîné sur une petite démo. Donc la première, ça va être simplement de vous montrer comment on écrit un middleware de log, et on va voir que c'est très très simple. Et la seconde, ça va être de vous montrer comment utiliser le middleware OAuth pour authentifier une web API. Donc pour le log, je vais revenir dans mon projet. Et donc ici, j'ai écrit une petite classe ici qui s'appelle logMiddleware. LogMiddleware hérite simplement de la classe OwenMiddleware. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il implémente simplement une méthode invoke, une méthode asynchrone. On est dans le web, donc tout est asynchrone dans Owen. Et donc ce que fait cette méthode, c'est simplement qu'elle va pouvoir accéder à un IOWIN context qui va lui, si on regarde un petit peu sa déclaration, ça va exposer une request, une response, et puis des variables d'environnement, des choses comme ça. Et puis, on va pouvoir, du coup, faire un petit peu ce qu'on veut. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est simplement tracer le début d'exécution de chaque requête et la fin d'exécution de chaque requête. Donc, maintenant, si on regarde... donc, je vais venir simplement... lancer le projet en mode multi-instance et me connecter. Alors, je vais même venir me déconnecter et je vais venir voir la sortie Visual Studio. Là, je vais faire un petit peu de nettoyage en 1280x768, c'est pas évident. Alors, je retourne dans mon application, je vais venir me connecter. Donc là, j'ai une WebView donc MVC pour me connecter. Je vous montrerai le détail un petit peu plus loin. Je vais me connecter avec Facebook d'ailleurs.
Donc là, on en reparlera juste après, mais il est en train d'utiliser exactement les mêmes vues que ce que je vous ai montré au début quand j'ai parlé d'ASP.NET Identity. On verra comment il l'a mis en place, mais en tout cas, on mutualise au maximum, et c'est notamment ces middleware Owin qui nous permettent de faire ça.
Tout à fait. Et donc là, je me suis authentifié via une WebView, j'ai fait des appels à des web API, et on va voir que effectivement, tous mes appels sont tracés. Donc on va avoir ici effectivement mes WebView d'autorisation. Là, donc avec des appels à l'autorize, des appels à mon action MVC à account login, des choses comme ça. Je sais pas si, non, je peux pas zoomer dans cette fenêtre, c'est dommage. Et puis sur la fin, je vais aussi avoir donc les appels à mes web API, ebooks, my. Donc j'ai fait un seul middleware de log, il fonctionne avec n'importe quel techno. J'aurais pu mettre du signaler, j'aurais pu mettre du webform, ça aurait marché exactement de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est le modèle de développement qui est vraiment ultra simple. Comment je vais l'enregistrer après dans mon application, en fait, ce middleware Owin, ça se fait par code. Et là encore, c'est vraiment simplicité extrême. Hop. Dans mon app start, j'ai simplement dit, quand on me passe mon IAP builder Owin, tu vas simplement utiliser le middleware de type log middleware.
Donc là, en fait, si vous avez déjà commencé à faire des développements, parce que ça existait, c'était déjà là un peu en MVC4 et Web API, Owin, c'était vraiment les bases qui étaient là et c'est vraiment installé et c'est le futur aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler. En fait, vous avez peut-être déjà eu l'habitude d'utiliser les méthodes app.useCookie.useFacebook, etc., qu'on a vu aussi tout à l'heure. C'était déjà, en fait, des middleware Owin qui étaient présents et qui permettaient justement d'encapsuler tous les rebonds qu'on peut avoir pour aller se connecter via Facebook ou un compte Microsoft, par exemple.
Alors, en parlant de rebonds, justement, et d'authentification, vous avez vu que ma web API était authentifiée. J'ai dû m'authentifier au sein de l'application Windows. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise comme protocole la plupart du temps pour authentifier des apps clientes sur une web API? On utilise OAuth2. Donc, OAuth2, c'est un protocole qui passe par une WebView pour afficher le prompt de login natif d'un site. On récupère via un jeu de redirection un code et avec le client ID et le client secret de l'application, on va soumettre ce code et on va obtenir un access token OAuth2. Et cet access token OAuth2, ça va être notre preuve d'authentification qu'on va passer au web API. Ça, si on veut implémenter ce protocole OAuth2 à la main, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y a pas mal de choses à connaître sur la nature même de ce protocole-là. Et en fait, ce que fournit Microsoft avec Owin, c'est un middleware qui nous permet très simplement de venir faire notre authentification OAuth2. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, sur notre IAP Builder, comme d'habitude, on va pouvoir faire appel à Use Auth Authorization Server. Et ce Use Auth Authorization Server, il va prendre un certain nombre de paramètres, notamment un Auth Server Provider qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on veut émettre des authorization codes, quand est-ce qu'on veut émettre des access tokens, etc. On va avoir à implémenter des Authorization Code Provider, Access Token Provider, etc. Et puis on va simplement dire, voilà l'URL du endpoint d'autorisation. Et voilà l'URL de l'endpoint auth pour choper les tokens. Si je vais voir dans mon serveur provider, on va voir que c'est assez simple. En fait, j'ai un certain nombre de méthodes à implémenter. Donc, par exemple, authorize endpoint. Moi, j'ai simplement dit, si mon utilisateur est déjà authentifié dans ma WebView, je vais émettre mon authorization code directement. Et puis sinon, je vais venir le rediriger. C'est pas ici. c'est ici, voilà. Je vais simplement venir le rediriger vers ma page de login ASP.NET MVC en lui passant une return URL pour poursuivre mon flow hôte. Voilà. Donc on a dit que les middleware OWIN étaient partagés sur toutes les technos. Donc là maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que dans certaines applications natives, sur n'importe quel device, il arrive assez souvent qu'on ait quand même besoin d'afficher des WebView, tout simplement parce que certaines fonctionnalités ne veulent pas être exposées sous forme d'API ou de choses comme ça. Et c'est souvent assez compliqué de partager un contexte d'authentification entre des web API qui vont fonctionner en hôte et puis de l'authentification web classique dans nos WebView qui souvent fonctionnent avec des cookies. Donc par défaut, on va se retrouver, si on fait pas attention, avec quelque chose comme ça, où je vais cliquer sur ma WebView, et puis en fait, on va me demander de me reconnecter, alors que je suis déjà connecté dans l'application. Donc comme les middleware OWIN sont compatibles, enfin se fichent un petit peu du framework qu'il y a au-dessus, en fait, la solution la plus simple, c'est que comme j'ai déjà mon access token au hôte, en fait, il suffirait simplement de passer cet access token dans ma WebView. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais aller dans mon client Windows 8. Et donc j'ai une méthode ici, voilà, onWebViewClick. Et donc quand je crée le message HTTP de ma requête, qui va aller sur mon action MVC, eh bien je vais simplement venir inclure les headers d'autorisation au hôte avec mon access token. Et donc maintenant, sans avoir de cookie ASP.NET ni rien, je vais pouvoir afficher ma WebView avec un contexte authentifié. Voilà, je suis bien authentifié comme Simon.
Ok. Donc si je résume un petit peu la démo que tu viens de faire, tu utilises le middleware hôte d'OWIN pour mettre en place de l'authentification sur la web API. Donc ça, on a vu que ça marche bien. On est sur une stack qui est complètement HTTP, donc là on vous a montré une démo avec un client Windows 8, mais ça pourrait être n'importe quel autre client qui est capable de faire une requête HTTP que vous pourrez authentifier là-dessus. Donc ça ouvre un scénario qui est énorme pour la sécurisation de vos web API. Et en plus de ça, le dernier point que tu nous as montré, c'est de dire que en indiquant en fait un authorization header dans la requête, MVC via OWIN est capable de switcher automatiquement et pour passer de l'utilisation de cookies de session traditionnelle, si on y allait avec un web browser, à justement l'acceptation de ce token, et puis derrière me permettre d'accéder à toutes les ressources.
Tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, OWIN, pour le coup, est quelque chose d'assez fondamental, dans le sens où tout ce qu'on va venir mettre en place au niveau OWIN va être compris à la fois par MVC, par Web API, par WebForm, etc. Y compris l'authentification, y compris les tokens hôte, etc.
Et donc du coup, si je voulais faire interagir mon application Windows 8 avec un hub Signaler qui est sur mon serveur dans la même application, j'ai mon token hôte et ça passe aussi, quoi.
Ça marcherait exactement de la même manière. Il me reste une petite chose à vous montrer à propos d'OWIN, c'est donc les hosts alternatifs. Donc je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de hosts fournis par Microsoft. Il y en a un premier qui est le host classique de ZS, qui fait en fait en sorte que les applications ASP.NET classiques fonctionnent. Et il y en a un autre qui est basé sur l'HTTP listener.net, qui est très utile pour faire de la communication interprocessus, etc. Par exemple, je vais avoir un espèce d'agent qui tourne sur mon desktop, qui expose une web API à d'autres applications qui tournent en local. On peut le faire avec du web API et l'HTTP listener host. Et il y en a un dernier qui est le host de test unitaire que je vais vous montrer en démo, qui est assez pratique à utiliser pour faire des tests unitaires d'API web.
Qui fait des tests unitaires dans la salle là ?
Menteur.
En RD, on est à 60%, on va dire.
Ouais, 60%, moi je pense qu'il y a des menteurs dans cette salle.
60% de développeurs MVC et 60% qui font des tests unitaires. Et pourquoi, enfin, faut pas se voiler la face, hein, la plupart du temps, pourquoi on n'en fait pas, si on n'en fait pas, c'est que ça prend du temps, donc ça coûte de l'argent, et ça peut être un peu fastidieux à mettre en place dans certains cas. Et là, typiquement, l'host OWIN pour faire du test unitaire, c'est encore un moyen de faire des tests unitaires un peu plus facilement dans nos projets.
Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, en fait, on va se créer un test unitaire où on va pouvoir créer notre propre serveur Owin qui va tourner in process. Donc, du coup, si j'ai la moindre exception, la moindre stack trace, etc., ben, en fait, ma web API et mon test vont tourner dans le même process. Donc, je vais pouvoir débugger tout ça ensemble. Je vais pouvoir récupérer des stack trace qui vont contenir des informations sur là où ça a vraiment pété dans ma web API, etc. Là où c'est intéressant, c'est que on va créer notre propre config Owin de test, et donc on va pouvoir changer un petit peu le paramétrage de ce qu'on a sur notre serveur. Donc là, je vais pouvoir réutiliser mon middleware de log dans mon test unitaire, et puis je vais pouvoir aussi utiliser, plutôt que d'utiliser toute la mécanique OAuth, etc. Dans un test unitaire, c'est un peu compliqué. Donc j'ai créé un middleware d'authentification qui se base juste sur une claims identity que j'ai créée comme ça dans mon test unitaire. Et puis ensuite je configure simplement ma web API pour qu'elle fonctionne dans ce serveur Owin. Et puis c'est parti quoi. Donc là je vais pouvoir mettre un petit point d'arrêt. Ah oui. La manière dont ça va se passer, en fait, c'est que du coup, je vais pouvoir créer un HTTP client, mais cet HTTP client, il va pas vraiment faire des requêtes HTTP. Je vais lui passer un handler qui m'est fourni par mon serveur de test. Et en fait, cet handler va convertir les requêtes HTTP de l'HTTP client qu'on utilise de manière classique en appel direct au serveur Owin. Donc là, du coup, si je viens dans mon test Explorer et que je débug mon test unitaire, donc je vais créer mon client en lui passant mon handler. Je peux faire mon get async et du coup si je fais un F11, non ça va pas marcher, mais normalement j'aurais dû me retrouver dans le code de ma web API. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que mon middleware de log il fonctionne toujours, donc j'ai bien quelque part début d'exécution de ma requête et fin d'exécution de la requête. Et puis je vais pouvoir faire mes assertions, etc., comme un test unitaire classique. Sauf que là, j'ai créé une identité fake et j'ai pas eu à passer par OAuth. Chose assez intéressante, comme on peut ici venir configurer un petit peu tout ce qu'on veut, on peut imaginer injecter des mocks, des API de stockage et des choses comme ça.
Et donc du coup, sur ce test unitaire, nos deux IS, c'est vraiment dans le process, quoi.
Voilà, je l'ai pas montré, mais en faisant un SSH, on aurait vu qu'il y a rien du tout qui écoute en HTTP, donc on n'est pas dépendant. Le résultat de nos tests unitaires vont pas être dépendants de la présence de réseau ou non, et de choses comme ça.
Ok, merci Simon. Avant de conclure, on va redescendre vers des choses un peu moins avancées, et on voulait vous parler un petit peu de ASP.NET MVC 5.1. Et Web API 2.1 qui sont sortis il y a une quinzaine de jours à peu près. Donc Microsoft a des cycles de release assez courts hein, quand même sur ses produits depuis un petit moment. Et donc juste pour vous dire quelques infos sur ces versions. Donc au niveau MVC 5.1, on a un drop-down list fork qui est capable de gérer les énumérations au niveau des HTML helpers. Donc vous mettez vos display names sur les différentes valeurs de vos énumérations et HTML drop-down list fork, ça fonctionne nickel. Ils ont rajouté un petit peu de tooling au niveau validation JavaScript pour le MaxLength, MinxLength et compagnie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, on n'en a pas trop parlé, mais vous avez vu les différents sites qu'on vous a présentés, là, ce template noir et blanc. C'est un template qui est en fait basé sur Bootstrap 3, qui est le moteur de CSS, framework CSS, on va dire, qui a été créé par Twitter, qui a un framework CSS qui s'accompagne aussi de JavaScript, qui est complètement responsive, donc il va s'adapter aux différentes tailles et devices sur lesquels vous exécutez vos applications web. Et donc du coup, MVC 5.1 nous rajoute la possibilité, enfin, dans les éditeurs forts, de passer des HTML attributes. On n'est plus obligé de redescendre sur un textbox fort ou sur un text area fort. On va directement pouvoir passer nos classes, nos différents attributs HTML, ce qui va être très utile justement pour Bootstrap, pour contrôler un petit peu la génération de nos formulaires. Enfin, dernier élément, sur Web API 2.1, on a un nouveau MediaType formateur qui est géré nativement, qui est le binary JSON. Donc, pour conclure cette session, ce qu'on a pu voir, on vous a quasiment montré vraiment toutes les nouveautés qu'il y avait sur MVC 5 et Web API 2. Donc, on voit qu'en termes de fonctionnalité en tant que telle, il n'y a pas forcément énormément de choses. Par contre, il y a énormément de nouveautés transverses à ces technologies, ASP.NET Identity Core sur lesquels vous pouvez partir sur vos développements. Ça fonctionne bien, c'est robuste et toute la sécurité ASP.NET qui existait avant continue de fonctionner puisqu'on délègue juste la partie stockage. On a parlé d'OWIN qui nous permet de créer des middleware pour la sécurité, pour faire du log, pour faire des tests unitaires, pour exécuter une web API hors contexte web par exemple. Et donc bah, tout ça, ça assoit la direction de Microsoft qui est One ASP.NET. Voilà, on développe en ASP.NET et ensuite on choisit les différentes briques qu'on va vouloir utiliser. Tous les codes sources et démos sont récupérables sur l'adresse GitHub qui est ici. Voilà, merci. On espère que cette session vous aura plu. Si vous avez des questions, on les prendra. Merci beaucoup.